Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux, Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons Arthur Beauchaud, Océane Top 16. Arthur, bonjour et il en est encore temps. Bonne année, meilleurs vœux.
Oui, bonjour à tous et bonne année.
Donc, merci d'avoir accepté notre émission. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc, j'accueille également en studio Christian. Bonjour Christian.
Salut Didier.
Donc, en forme, oui. Poker, peut-être c'était poker ce matin.
Oh oui, depuis le début de l'année, oui, effectivement.
Ok, à fond alors. Donc, notre DD national a un empêchement professionnel. Il ne pourra pas être avec nous. Il m'a dit de te présenter ses meilleurs vœux, Arthur. Donc, DD sera là une prochaine fois. Parfait.
Moi, je ne peux pas lui dire.
Christian, donc je te laisse le soin de poser la première question à notre invité.
Oui, bah écoute, ravi d'avoir Arthur avec nous à nouveau. Hein. C'est pratiquement le quatrième membre de l'équipe, comme on est habitué à le recevoir 3-4 fois dans l'année. Arthur, on est début janvier, là du coup, j'imagine qu'on est en pleine préparation hivernale. C'est quoi le programme en ce moment de tes coureurs et de toi-même?
Ah là, on est dans le rush d'avant-saison. La saison commençant le 5 février, on est... dans la dernière ligne droite, on finit les préparations physiques de chacun des athlètes. Et puis pour notre part à nous, le staff, on fignole les dernières commandes, on réceptionne les dernières commandes, que ce soit les commandes de tenue, de matériel ou même de boissons, de bouffe pour les coureurs. Donc on est dans le rush d'avant-saison là.
D'ailleurs, question de curiosité, un vélo, est-ce que vous changez de vélo chaque année ou est-ce que finalement les vélos que vous avez, vous les réutilisez d'année en année?
Alors dans les années normales, on va dire qu'on sans Covid, on change les vélos tous les ans. C'est vrai que là, le Covid a créé une pénurie de matériel qui nous oblige à faire un mix, c'est-à-dire que tous les vélos qu'on a reçus pour les nouveaux et même les anciens vont être du coup changés avec des vélos d'édition 2022. Pour l'instant, les vélos qu'on n'a pas reçus, les coureurs sont contraints d'utiliser leurs vélos 2021.
D'accord. Il y a beaucoup d'évolutions d'ailleurs entre les matériaux d'une année sur l'autre ou finalement ça reste quand même des entre guillemets des gains marginaux qu'on obtient.
Non, alors on a eu un vrai changement de matériel quand l'ensemble du peloton routier est passé sur des vélos à disque. Donc là, on a eu une vraie révolution.
D'accord. Tous les coureurs sont sur les freins à disque désormais.
Tous les coureurs, peut-être pas, mais les équipes de haut niveau, du moins, ça devient la norme.
D'accord.
Ça représente un investissement, non, Arthur?
Alors la première année, quand on change de gamme de matériel, ça représente fatalement un investissement. Alors après, nous, on a un fonctionnement, on a un fonds de roulement, c'est-à-dire qu'en fin de saison, on revend les vélos.
D'accord.
Qui permet de donc on les rend fatalement un peu moins cher qu'on les achète, mais ça crée quand même un fonds de roulement. Mais c'est vrai que la première année, il y a un investissement supplémentaire parce qu'un vélo à disque est fatalement plus cher qu'un vélo à patin. Et la prochaine investissement de la structure, ça sera de passer sur des vélos électriques, du moins sur la transmission.
Pas seulement. Puisqu'on est en train de parler de sous, quel est le budget d'équipe cette année, Arthur?
On reste sur un budget identique aux années précédentes. On n'est pas forcément le plus gros budget de France. Hein. On évolue entre 250 et 400 000 euros.
Quand même.
Donc c'est pas le budget des plus conséquents. Hein. Sur les 27 ENA, on doit être entre le 22e et le 27e budget. Donc on joue avec nos armes. On essaye de faire des recrutements. On va dire harmonieux pour le bien de l'équipe et depuis une dizaine d'années ça se passe quand même plutôt pas mal.
D'ailleurs si on revient on a déjà fait un bilan de 2021 avec toi sur une précédente émission, mais si on revient sur les principaux points à souligner, si tu veux d'ailleurs nous donner peut-être un moment fort dans la saison positif, mais aussi malheureusement une grosse déception dans l'année, quel serait-il?
Oh bah la grosse déception, je vais parler de ce qui arrive pour 2022, c'est-à-dire que dès les Sorbasques, on a senti qu'on n'était pas dedans dès le début de saison l'an passé où globalement il y a des je repense à la deuxième ou troisième étape où c'est un groupe d'une trentaine de coureurs qui part et sur les 30 on n'a pas un seul, donc derrière on était à contre-temps et ça résume globalement le début de saison, c'est-à-dire qu'on était jamais où il fallait quand il fallait et au final ça n'a jamais scoré, donc pour le début de saison et pour les soucis et pour le souvenir un petit peu négatif, c'est ce que je vais retenir. C'est-à-dire que on a entamé le début de saison en faisant n'importe quoi et globalement, on s'est inscrit dans une spirale négative et on a eu énormément de mal à en sortir. Alors après, pour le souvenir positif, j'aurais pu parler de Marmande où on est 4 coureurs, voire même 5 coureurs dans les 10 premiers. Mais en élément positif, j'ai plutôt parlé de Bordeaux-Sainte. Bordeaux-Sainte, c'est sans réellement savoir pourquoi, le moment où on a basculé de cette spirale négative à cette spirale positive, où les coureurs ont eu le comportement, je veux dire, approprié, où même si Bordeaux-Sainte n'a pas été le résultat qu'on aurait pu escompter, il n'y a pas eu de podium, il n'y a pas eu de top 10 non plus, mais sur le comportement, c'est là où nous, en tant que staff, on a reçu, enfin ressenti le changement. Où on s'est dit ok, les coureurs se sont remis dans l'axe, maintenant c'est à nous de continuer à faire ce qu'il faut pour aller scorer, et puis on a bien vu qu'après après Bordeaux-Sainte, tout a plutôt bien roulé.
Ouais, donc on peut finalement assimiler 2021 à une montée en puissance, un départ compliqué et une meilleure fin, donc une montée en puissance, et on espère, j'imagine que ça vous donne du baume au cœur pour 2022, vraiment essayer de surfer sur cette vague qui monte au final.
Oui, l'objectif, il est clair, en 2022, c'est de faire l'inverse de 2021. Pour la simple et bonne raison qu'on a déjà un impératif de Coupe de France. Sur nos 4 manches de Coupe de France, les 3 premières sont sur les 4 premiers mois de l'année. Donc il va pas falloir se louper sur les 4 premiers mois de l'année comme l'an passé, parce que ça devient un impératif de résultat cette année. Après, on a remanié légèrement l'effectif, pas tant que ça au final.
C'est ça.
Oui, c'est ça. On est venu inclure des petits nouveaux, des très jeunes, et un coureur de grande expérience. Donc avec notre groupe qui en fin de saison dernière était plutôt très performant, je pense que ça peut être la bonne mayonnaise.
Oui, il y a 4 coureurs qui ont 18 ans quand même dans votre groupe. Non, c'est extrêmement jeune. C'est un pari sur l'avenir.
Oui, alors ça reste dans notre politique de recrutement, on est toujours fonctionné comme ça, prendre des coureurs très jeunes, c'est déjà, comment je vais dire...
C'est votre marque de fabrique.
Ouais, c'est notre marque, c'est notre identité, c'est ça. Ouais.
Ouais, parce que là, finalement, vous êtes vraiment dans de la post-formation.
Oui, on récupère des coureurs sortis juniors. Alors, il y a sur les 5 recrues, on a 3 18 ans, 1 19 ans et... Un capitaine de route qui arrive du monde professionnel.
Oui, complètement. D'ailleurs, on va aborder un peu le profil de chaque recrue. Donc, on va commencer par. On va faire par ordre alphabétique avec donc Julien Azil Lozac, donc un grimpeur a priori, un puncher, un grimpeur.
Julien Azil Lozac, c'est, on va dire, la surprise du peloton junior, même si ça reste un très bon coureur depuis qu'il est très jeune, pardon. C'est vrai que Julien a explosé sur cette fin d'année 2021 dans les rangs juniors où voilà, ça reste un junior d'équipe de France du coup, hein, qui a été chercher des places sur des courses de montagne pour sa catégorie avec des coureurs de renom internationaux. Donc non, c'est plutôt un coureur d'avenir sur un profil très grimpeur et avec des capacités assez hors normes puisqu'il est déjà assez précoce pour son âge.
Oui, et on rappelle qu'il a 18 ans et donc il était licencié à Brive la saison dernière.
C'est ça.
Ensuite, donc la recrue phare entre guillemets qui a été annoncée il y a quelques semaines, c'est Jérémy Bellico qui vient de du World Tour puisqu'il était à l'Intermarché Vanti Gobert. Donc un retour aux sources pour Jérémy qui était avec vous avant de passer chez les pros, capitaine de route, c'est vraiment le cas.
Oui, alors nous, c'était moi mon cheval de bataille tout l'hiver. Voilà, je voulais recruter un capitaine de route et l'ensemble de l'équipe voulait recruter un capitaine de route parce que c'est vrai que quand on met en confrontation notre effectif qui est parfois très 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 jeune, eh bien le souci de la jeunesse, c'est parfois le manque d'expérience. Donc venir inclure dans le groupe un capitaine était pour moi essentiel. Jérémy, c'est un enfant du pays, hein. Il a grandi ici. Il était chez nous avant de passer professionnel et même avant de s'expatrier du côté de Montbéliard. Et ça reste aussi humainement et sportivement quelqu'un de grande valeur. Donc voilà, on a fait le premier stage week-end. Ce week-end, il a naturellement pris son rôle. Donc, on était plutôt satisfait de ça et on espère qu'il pourra apporter toute son expérience aux jeunes coureurs et aux moins jeunes aussi, parce qu'il arrive quand même du World Tour. Voilà, il sera au départ de l'Essor Basque dans 3 semaines, mais l'an dernier, il était au départ de Paris-Nice et Dauphiné, par exemple. Donc,
oui. Quel discours tu lui as tenu pour l'inciter à revenir chez lui, en fait?
Quel discours je lui ai tenu? Je lui ai pas tenu plus de, enfin, un discours particulier. C'est vrai que Jérémy, quand il a fini la saison, enfin, quand il a su qu'il n'était pas conservé chez les professionnels, il a eu une phase de, pas de dégoût, je vais dire, mais voilà, il a eu besoin
de déception, ouais.
Ouais, je pense une petite déception où il a dû un petit peu réfléchir, se poser. Parce que dans sa première idée, il voulait arrêter complètement. Ah ouais, alors après, moi Jérémy, c'est quelqu'un que je connais depuis tout petit, parce qu'on est on a un an de différence, donc on a toujours fait du vélo ensemble dans les catégories plus jeunes, donc je le connais très très bien. Et c'est vrai que moi je le voulais absolument, parce que je sais que c'est la pierre qui peut soutenir toute l'équipe et qui peut permettre de faire évoluer la structure. Donc quel discours j'ai tenu à Jérémy? J'ai pas tenu de discours particulier, hormis la vérité et ce que je pensais de lui et ce que je pensais de ce qu'il pouvait apporter à la structure.
Oui, puis l'avantage d'un retour au final, c'est qu'il connaît déjà beaucoup de monde au sein de l'équipe, au sein que ce soit peut-être pas forcément au niveau des coureurs, mais surtout au niveau de l'encadrement, et du coup son intégration va se faire très facilement.
Oui, c'est un retour à la maison, c'est toujours plus simple de rentrer à la maison que de partir ailleurs, ça c'est sûr, mais globalement Jérémy dans la structure et son implication, son rôle m'inquiète pas du tout, au contraire.
Donc tu parlais des Sorts Basques tout à l'heure, qui sera présent les Sorts Basques. Vous avez déjà fait un peu le programme de tous les coureurs là sur les premiers mois de compétition, ou finalement ça va s'affiner un peu au fur et à mesure pour savoir quelle course vous allez faire, parce que peut-être qu'il y a encore des incertitudes sur votre calendrier?
Alors nous on a un calendrier qui est à peu près arrêté depuis déjà un mois et demi, mais le souci des débuts de saison précédents, on va dire, où on arrive à globalement fin janvier à effectuer les effectifs pour le début de saison, on a dès le troisième week-end, la première Coupe de France qui vient s'imbriquer directement, et c'est vrai que on peut pas mettre n'importe qui à la Coupe de France avec Aix-en-Provence, parce que ça reste une Coupe de France qui est c'est pas une course de montagne, mais c'est une course qui reste difficile, donc il faut des hommes en forme qui passent les bosses. Et malheureusement, trouver quelqu'un en forme ou imaginer quelqu'un en forme avant le début de saison, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, on n'a même pas fait les effectifs pour l'Essor Basque. On a le stage en Espagne dans une semaine maintenant. La semaine, on part samedi prochain. Ce qui va nous donner déjà un ordre d'idée sur le stage. On va essayer de mettre en place quelque chose pour essayer d'émerger un groupe de coureurs pour une sorte de présélection pour la Coupe de France, et ce qui va induire après l'ensemble des effectifs du début de saison.
Alors au niveau des arrivées, là, Arthur, il y a également Valérien Lajonias.
Oui, Valérien Lajonias, c'est la bonne surprise, du moins parce que moi je l'ai récupéré en entraînement en plus de l'avoir dans l'équipe. Je deviens son entraîneur, et c'est vrai que Valérien, c'est la bonne surprise. C'est vrai que nous on l'a contacté et même lui, je pense qu'il était surpris qu'on le contacte. Il ne s'attendait pas du tout à se retrouver en N1 cette année. C'est pareil, c'est un coureur très jeune, 18 ans, il sort des rangs juniors, il était en équipe régionale avec Julien. Mais c'est un coureur, déjà, moi qui m'impressionne par son sérieux, par son implication et par les données physio qu'il est capable de sortir. C'est à son âge, ça peut être, je pense, une bonne surprise.
Quel est son profil?
Alors, en tant qu'entraîneur, je dirais que pour l'instant c'est un profil puncher grimpeur.
D'accord.
Mais quand on commence à analyser les datas de Valérien, on se rend compte qu'il a aussi quelques capacités de vitesse, dans le sens où il a des puissances rapportées au poids qui sont assez élevées sur des courts, enfin, sur des efforts très courts. Donc pourquoi pas aussi être à l'aise sur des arrivées, peut-être pas sprint massif parce qu'il est
en petit comité du coup.
En petit comité, je pense que ça peut être le style de coureur à basculer la dernière bosse dans un groupe de 15 et aller dans le groupe de 15 quoi.
Avant de parler des deux derniers coureurs que vous avez recrutés, on peut observer forcément un recrutement jeune, mais un recrutement qui est quand même centré sur la, entre guillemets, sur la région, hein, Brive, Marmande, Bressuire. Le fait finalement d'être pratiquement la seule équipe de DN1 en Nouvelle-Aquitaine avec la team UCUB 17, est-ce que ça a un avantage pour vous finalement de recruter local?
Alors oui, c'est fatalement plus simple de recruter local que d'aller recruter en Normandie. Et je vais pas insister sur la Normandie parce que sinon j'ai Mathieu Demotis qui va m'en vouloir, mais globalement la force de travailler avec des jeunes qui sont proches de la maison, c'est que dans l'urgence il y a besoin de faire quelque chose, un stage, je sais pas, un rassemblement, et ben on a une facilité de les avoir à côté. Après c'est aussi, on va dire, générationnel, c'est-à-dire que la région Nouvelle-Aquitaine depuis l'an dernier, et je pense pour encore une ou deux saisons sur la catégorie des juniors, se retrouve avec un vivier de coureurs assez impressionnant, puisqu'on a sur la piste, on a eu voilà, que ce soit chez les cadets ou chez les juniors, 8 champions de France, une dizaine de podiums. Enfin, c'était vraiment une grosse génération. Que ce soit dans le VTT pareil, hein, quand on regarde des jeunes filles comme Olivia Onesti, voilà, on a une grosse génération de coureurs en Nouvelle-Aquitaine. Du coup, ça serait pour nous dommage d'aller recruter ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc quatrième recrue, Mathis Stéphane, qui vient donc de Marmande. Son profil, du coup, Arthur.
Mathis, on est plus sur un coureur typé sprinter rouleur. C'est pour nous aussi important de tous les ans venir chercher un coureur de cette catégorie là on va dire, parce que on a notre sprint phare qui est Loulou, mais Louis il est malheureusement pas éternel. On sait que le sportif n'est pas éternel, il faut qu'on arrive à trouver des successeurs le plus tôt possible pour que Louis puisse les former. Donc on a eu en recrue Clément Le Bouettez l'an dernier, qui s'est assez bien acclimaté à son rôle, et cette année on vient recruter Mathis, qui va devoir du coup apprendre auprès de Louis et Clément.
Avec Louis Lapierre et Clément Le Bouettez, vous étiez déjà bien fourni en termes de sprint. Ce qui est intéressant l'an dernier, c'est que Clément pouvait se mettre au service de Louis, ou Louis inversement pouvait un peu chapeauter Clément. C'est intéressant finalement d'avoir pas mal de coureurs assez rapides, parce qu'au final en termes de lanceurs et de sprinteurs, on est vraiment parfois interchangeables.
Oui, c'est la grande force de ce groupe, j'ai envie de dire. Quand je vais prendre un exemple, c'est la seule étape de l'Essor Basque qui a bien fonctionné l'an passé, où on avait prévu une arrivée au sprint et on devait être, je pense, dans les briefings, la seule équipe à l'avoir imaginé. Parce que des étapes d'arrivée au sprint à l'Essor Basque avec des cols à monter, globalement, personne n'y avait pensé. Et on avait dit voilà, que Louis et Clément devaient s'arranger entre eux en essayant de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Au final, ils sont tellement bien arrangés qu'ils vont aller faire 4 et 5. Donc, c'est vrai que si on vient inclure un jeune en plus dans ce duo, avec même, si on élargit un petit peu le groupe, dans les lanceurs, on a Antonin Souchon qui vient souvent aider, Mathieu Demotis,
oui,
qui était souvent là pour venir les lancer. Mais on se retrouve avec un groupe de 4-5 coureurs sur un final de course. C'est souvent ce qui fait la différence entre aller faire 7e parce qu'on n'a pas de lanceur et aller faire 2e parce que, enfin, premier ou 2e parce qu'on a tout un ensemble de coureurs derrière, enfin, devant nous et derrière nous pour nous emmener au plus haut.
Ouais, d'ailleurs, comment ça se passe? J'imagine que c'est en course, les deux doivent se parler et doivent un peu faire le point sur leur état de forme, et puis finalement on bosse pour celui qui est le plus en forme sur le moment donné, ou c'est vraiment dans le camion le matin au brief que ça se décide?
Il y a certaines courses où c'est au brief que ça se décide, où au brief on fait ressortir une tête, on va dire, et après il y a toujours le traditionnel consigne qui est de dire que voilà, à 30 bornes de l'arrivée, vous concertez, parce que nous on est dans la voiture, on fait le briefing avant la course, mais globalement on n'est pas à l'intérieur de vos jambes et on ne sait pas comment ça répond. Donc à 30 bornes de l'arrivée, voilà, vous réunissez les lanceurs, les sprinteurs, enfin le groupe qui est désigné pour aller faire le sprint, et vous vous mettez d'accord. Est-ce que Louis t'es bien aujourd'hui, est-ce que t'es pas bien, est-ce que Clément t'es bien, est-ce que t'es pas bien, et en fonction des discussions de chacun, à 30 bornes de l'arrivée, vous prenez la décision d'en emmener un et après on s'en tient là-dessus. Donc c'est à peu près comme ça que fonctionnent toutes les équipes, hein. Mais globalement, ça a plutôt bien marché sur la fin de saison.
Comment ça se passe en course? Parce que, alors, surtout, dis-moi si je dis des bêtises, mais donc chez les pros, donc il y a les oreillettes, hein, qu'on fait parler, qu'on longuement fait parler. Vous n'avez pas d'oreillettes, vous courez entre guillemets un peu à l'ancienne. Alors forcément, il y a des briefings le matin, mais en course concrètement, quels moyens vous avez finalement pour communiquer, mis à part le coureur qui vient chercher du ravitaillement à la voiture?
Alors le débat des oreillettes, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que toutes les oreillettes devaient être supprimées fin des années 2010 de mémoire, la ligue, enfin le syndicat des pros, on va dire pour faire simple, a été monté au créneau, et au final il y a que nous qui avons eu la suppression des oreillettes. Ce qui moi personnellement je pense est une aberration, puisque nous par exemple, et on le ressent très bien dans nos effectifs très jeunes, on a des coureurs très jeunes qui ont besoin d'apprendre à courir. Mais on n'a pas l'occasion de les apprendre forcément bien courir, puisqu'on ne peut pas leur parler pendant 4 heures de course. À l'inverse des professionnels qui, eux, sont déjà professionnels et sont censés savoir faire, qui sont complètement drivés. Donc, ça, c'est un petit peu le paradoxe du vélo en ce moment, je trouve. Mais globalement, comment on fait pour leur parler? C'est pareil au briefing, il y a un ou deux coureurs qui sont désignés pour redescendre à la voiture. Parce que c'est pas quelque chose de facile, redescendre à la voiture et devoir rentrer dans le peloton après. Donc il y a un coureur, généralement c'est Mathieu Demotis qui a ce rôle là. Cette année ça sera Mathieu Demotis et Jérémy Bellico, puisqu'il est capitaine, qui auront ce rôle de descendre à la voiture en faisant une situation claire et précise, hein. Si je repense par exemple, je donne un exemple, ça sera plus parlant. Au Bouc de la Loire l'an dernier, il y a une échappée de 15 qui sort. Pas forcément d'infos radio course. Il y a un coureur qui descend à la voiture. Il dit voilà, on en a trois dans l'échappée. Derrière, on s'est mis en deuxième réseau du peloton. Et puis moi, ça permet d'ajuster la tactique si j'ai besoin de passer des consignes. Et puis globalement, on fonctionne comme ça.
Je vais faire grâce à Didier le nom de la dernière recrue, puisque c'est l'une Venkarten qui vient de l'SPT de Brive. Paris, un coureur jeune, 19 ans. Son profil, du coup, plutôt rouleur, sprinter, grimpeur, puncher.
Luc, pour l'instant, je le mettrais dans la catégorie des passe-partout. Sur le stage, il était plutôt en forme le week-end dernier, donc on a pu un petit peu observer. C'est vrai qu'il passe quand même plutôt bien les bosses. Ça a l'air d'être aussi un sacré rouleur. Et je pense que sur une arrivée d'un petit comité au sprint, il est capable d'aller gagner aussi. Donc ça peut être le profil un peu passe-partout. Luc, c'est un coureur très jeune, 19 ans. Donc lui, il a déjà eu, par rapport aux autres recrues jeunes, un an chez les Espoirs, où il doit terminer dans les 30 premiers Espoirs 1 de France. Donc on est aussi sur un coureur talentueux d'avenir.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi, 19h-20h30. Nous retrouvons Arthur Beauchaud et Christian en studio.
On parle de la jeunesse depuis tout à l'heure. Toi, avec ton statut d'entraîneur, Arthur, finalement, comment on drive ces jeunes? Est-ce qu'on essaie de les faire progresser vraiment un peu sur tous les points au final, ou vraiment on essaie de détecter, que ce soit avec des tests physiologiques ou autres, vraiment un point fort, et finalement bosser principalement ce point fort?
Alors, c'est une question compliquée, parce que je pense que chaque entraîneur aura sa réponse. Mais globalement, il faut déjà arriver à faire une photographie, on va dire, de l'athlète, de ses capacités, de ses spécialités aussi. Il faut accentuer le travail sur son point fort pour que ça en devienne un spécialiste. Et tout en faisant évoluer les points faibles aussi, pour éviter qu'il y ait une trop grosse différence entre les deux. Après, c'est un juste milieu à trouver. Je pense que le bon entraîneur, c'est celui qui fait progresser un athlète. Après, c'est parfois plus simple à dire qu'à faire.
Oui, complètement. Et puis j'imagine que d'ailleurs, ça n'est pas forcément dépendant des résultats. Un coureur qui ne gagne pas sur une saison, j'imagine que tu peux quand même juger sa progression du mois de janvier au mois de décembre. Au final, bien sûr, le résultat, c'est la finalité, parce que toujours important de gagner ou de faire des bonnes places. Mais au final, un coureur qui, entre guillemets, n'a pas réussi à avoir d'accès site peut progresser malgré tout.
Oui, on l'a bien vu l'an dernier, où le niveau amateur a pris enfin il a explosé le niveau amateur l'an dernier, c'était indécent même, voilà, où même les pros quand ils venaient dans les courses amateurs, ils ça fait vraiment du mal. La preuve, j'ai pas vu un seul pro gagner en élite cette année. Donc et à l'inverse, les amateurs ont été gagnés sur les classes 2 chez les pros. Donc c'est vrai que le niveau amateur a énormément évolué. On se rend compte que des coureurs qui allaient chercher il y a 2 ans des top 30, ils vont encore chercher les top 30, mais comme le niveau a augmenté, leur niveau à eux aussi a augmenté. C'est pas parce qu'ils font les mêmes places que leur niveau a régressé ou a stagné. Voilà, c'est à mettre en relation. Leur progression est à mettre en relation avec le niveau global du vélo en France. Et comme le vélo global du vélo en France ne cesse d'augmenter, fatalement, les coureurs progressent aussi.
L'an dernier, en ayant Stéphane régulièrement au téléphone et toi-même, vous me disiez que c'était vraiment très compliqué avec le Covid au niveau des courses, parce que il y avait des inscriptions finalement à faire, et puis les équipes se jetaient vraiment, et c'était presque au premier servi. Est-ce que cette année c'est un peu plus entre guillemets un peu plus facile? Est-ce que c'est un peu rentré dans l'ordre? Là, on sait que malheureusement la pandémie repart à la hausse. Est-ce que votre travail au niveau de la planification est encore très compliqué cette année?
Alors, ce qui cette année compliqué, c'est la gestion des commandes. Voilà, je donne un exemple très 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 simple. Hein, notre nouveau camion devait arriver juillet l'an dernier, et à l'heure où on se parle, j'ai toujours pas le nouveau camion.
Ah oui. Tu penses l'avoir pour février?
Non, très très clairement non. J'espère plus rien du camion, mais on l'aura bien un jour. Après, c'est exactement le même souci qu'on a sur les vélos. Des vélos qui étaient censés arriver en décembre ne sont toujours pas arrivés. Donc en fait, on est plutôt sur une gestion de crise de matériel. Après, sur la gestion organisationnelle, on va dire, l'an dernier, ce qui était vraiment le calvaire, c'était l'inscription des courses. Oui. Et la gestion des différents passes sanitaires, des différents tests PCR qu'il fallait venir mettre en plus des passes sanitaires. C'était vraiment une usine à gaz. Voilà, on s'est vu dans l'année faire des arrangements avec des équipes. Où on faisait un groupe de directeurs sportifs. Quand une course ouvrait, chaque directeur sportif du groupe engageait le maximum de coureurs et puis après redispatchait entre les équipes avec qui il s'était arrangé. Et on s'est vu des fois mettre des réveils à 3 ou 4 heures du matin en pleine nuit pour justement dispatcher les places qu'avait récupéré Vendée U pour nous, ou qu'on avait récupéré pour Vendée U, parce que si on le faisait à 17h, de toute façon, le temps que nous on supprime notre place pour que Vendée U la prenne, quelqu'un l'avait déjà prise entre temps.
Oui.
Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on se réveillait à 3h du matin. Donc
c'était... Oui, c'est un peu finalement comme si tu allais sur une billetterie en ligne pour acheter une place pour un match de foot ou pour un concert, et qu'au final il y a une queue immense, et que malheureusement tout le monde ne peut pas être servi.
C'est ça, c'était exactement le souci. Et puis après, une fois qu'on avait réussi cette première étape d'inscription, il fallait gérer les délais des tests PCR,
c'était le pass sanitaire.
Le pass vaccinal, ça sera bientôt. Mais globalement, on était dans une gestion permanente, et quand on était en course par étape, je repense en championnat de France de l'avenir, c'était une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on arrivait le mardi pour les contre-la-montre avec l'ensemble de l'effectif. Donc là, c'était test PCR pour tout le monde. Et 2 jours après le test PCR du contre-la-montre, il fallait refaire un autre test PCR pour la course route. Le souci des championnats de France de l'avenir, et ça a été le souci toute l'année, c'est qu'on était dans une petite ville et qui est arrivé d'un coup 300 coureurs. Donc
donc rupture de stock.
Exactement. Donc on s'est retrouvé des fois obligé de faire une demi-heure ou 40 minutes de bagnole pour aller trouver un test, ou c'était une galère.
À ce propos, est-ce que ça va de soi, tous les coureurs sont vaccinés actuellement?
Oui, tous les coureurs sont vaccinés. C'était la simplicité pour nous et la sécurité pour eux de fonctionnement. Je pense que quand le pass vaccinal va sortir, je pense que pour les courses de haut niveau, ça sera la norme. Je pense que pour participer aux courses de haut niveau, il faudra avoir son pass vaccinal à jour. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'harmoniser sur ce mois de janvier aussi la troisième dose de chacun.
Pour 2022, là, est-ce qu'il y a un protocole qui est sorti pour vous, ou au final, ça va juste être le pass vaccinal, et que chaque coureur finalement soit à jour de ces rappels et seulement ça.
Alors, je vais être très sincère avec vous. Les protocoles, comme il en sort toutes les semaines.
Oui, ça peut changer d'une semaine sur l'autre. Ouais.
Je vais attendre le 3 ou le 4 janvier, juste avant le 3 ou 4 février, juste avant les Sorbas, pour me pencher sur l'histoire du protocole, pour la simple et bonne raison que sinon je vais devoir changer mes plans tous les deux jours. Et c'est déjà assez pénible comme ça. Donc je vais attendre le dernier règlement, on va dire, effectif pour notre début de saison à nous, et on s'harmonisera là-dessus.
Ouais. D'ailleurs, tu évoquais le stage en Espagne, hein, c'est pas trop compliqué de l'organiser avec changement de pays, surtout en ce moment où au final ça revient vraiment à la une des journaux, que finalement le Covid est hyper présent. Ça vous a pas dérangé, vous, pour votre stage en Espagne? Et le stage en Espagne, du coup, j'imagine que c'est pour trouver, entre guillemets, des conditions météo plus favorables qu'ici. Combien de jours et qu'est-ce que vous allez bosser concrètement?
Alors oui, alors pour le stage en Espagne, non, c'est pas très compliqué à organiser. Je pense que ce qui est plus compliqué à organiser, c'est la gestion des hébergements, des courses en France, que la gestion du stage en Espagne, enfin du moins à l'heure actuelle. Le stage en Espagne se profile assez bien. Moi, j'ai encore eu l'hôtel hier. Ils sont heureux et ravis de nous recevoir parce que je pense qu'ils ont besoin de monde aussi. Alors après, il va falloir se plier aux règles du Covid en Espagne et du moins en Catalogne, parce que c'est toujours le souci de l'Espagne, c'est que selon les régions, c'est tout le temps les mêmes règles. Mais globalement, ça se profile assez bien. J'ai déjà un coureur personnellement qui est descendu en Espagne faire un stage avec des amis à lui, et ça se passe très bien. Faut mettre le masque dans les lieux publics, présenter son passe sanitaire quand on veut aller boire un café ou prendre une bière, mais globalement ça se passe très bien. Alors après, oui, l'intérêt du stage en Espagne, il est là. C'est-à-dire que le week-end dernier, on a fait un stage foncier pour que les coureurs se retrouvent après les fêtes, et le week-end dernier en Charente, globalement, c'était pas une partie de plaisir pour eux, avec 7 degrés et des trombes d'eau.
Oui.
Tout le week-end, ça a été compliqué, mais ils ont fait preuve de sérieux et d'une grande abnégation, on va dire. C'était pas simple. Après, c'est vrai que l'avantage d'aller en Espagne, c'est qu'une fois qu'on bascule de l'autre côté des Pyrénées, il fait 20 degrés, il fait soleil tous les jours, donc pour rouler tranquillement et préparer sa saison sereinement, c'est vrai que c'est plus simple qu'en France.
Oui, et puis en plus, qui dit stage dit forcément cohésion, vous partez tous ensemble, donc ça permet de se retrouver avant la saison, au nouveau un peu de familiariser avec les anciens, donc c'est bien sûr il y a l'aspect préparation hivernale, et puis on prépare les premières courses de la saison, mais c'est surtout se retrouver ensemble avant que ça parte vraiment.
Oui, le but du jeu d'aller en Espagne, c'est aussi ça, c'est de créer on va dire, enfin, si on caricature, c'est de lancer la saison et de lancer le groupe dans une saison.
Ouais.
Le but du jeu est pas forcément de faire des bornes. Alors après, c'est sûr qu'on va en Espagne, c'est pas pour faire 2 heures de vélo tous les jours. Sinon, ça reviendrait trop cher pour l'intérêt. Après, le but d'aller en Espagne, c'est de globalement rouler le matin, faire des grosses sorties le matin. Voilà, on va quand même partir sur entre 20 et 25 heures de vélo. Hein. C'est quand même une grosse semaine. On va être autour des 700 bornes, donc c'est quand même conséquent. Mais le but du jeu, c'est qu'après, en fait, tout l'après-midi, les coureurs, ils ont du temps pour eux. Ils ont du temps pour aller au massage. Ils ont du temps pour faire une séance de cohésion de groupe. Ils ont du temps pour aller faire une petite séance de muscu sur la plage. Ils ont le temps d'aller faire de la marche ensemble. Ils ont le temps d'aller faire un baby foot dans l'espace loisir de l'hôtel, aller au casino s'il est ouvert, enfin je sais pas, mais ils ont du temps pour eux et pour vivre ensemble, ce qui est pour moi plus important que même aller faire 3 heures de vélo le matin.
Bah maintenant on va parler forcément de la DN1. Bon, la première chose qui m'a frappé, c'est 26 équipes de DN1, si je me trompe pas, si j'ai bien compté. 26, c'est beaucoup, non?
Ah oui, alors on était à 27 l'an dernier, et à l'heure où on se parle, l'officialisation de toutes les structures n'a pas encore été faite, donc
c'est
pas trouvé, on sera d'ici 3 semaines, je pense que ça devrait plus tarder. C'est vrai qu'on avait espéré, avec le passage de Nantes Atlantique chez les professionnels, l'arrêt du team Pro Imo Nicolas Roux, que la voilure...
Ah oui, ils ont arrêté?
Oui.
Parce qu'ils avaient des super résultats, ils faisaient souvent des triplés il y avait vraiment des gros résultats de leurs coureurs, il me semble.
Oui, c'était vraiment l'équipe numéro 1, mais du coup qui a arrêté cet hiver. Donc on avait espéré que ces deux changements réduisent un petit peu la voilure au sein des structures de N1, mais on a des équipes qui ont postulé donc à la N1. Je pense que certaines vont être prises. Donc je pense qu'on devrait se retrouver dans les mêmes eaux, 26, 27 équipes.
D'accord. Avec, il me semble, donc la troisième saison des dossiers. Donc avant le Covid, on disait que 2021 était un peu une année de transition dans le sens où c'était, entre guillemets, la deuxième année. Donc il fallait prouver sportivement qu'on avait notre place en DN1, mais il n'y avait pas de coup près. Là, 2022, ça va être une année importante.
L'année 2022 sera importante. La fédération, elle souhaite réduire la voilure et de retomber, je pense, à 22 ou 24 équipes grand maximum. Mais je pense qu'on sera plus près des 20-22 que des 22-24. Ce qui sous-entend qu'il y a au minimum 5 ou 6 équipes qui vont être sur la sellette. Alors après, il y a des équipes qui structurellement, il faut, pour répondre au cahier des charges, un niveau aussi bien sportif que structurel. Le cahier des charges est en pleine réétude à la fédération. Il va être complètement remodelé par rapport à ce qu'il a pu être il y a 3 ans. Donc c'est vrai que l'année s'annonce particulière dans le sens où il va falloir aussi bien préparer la saison, les courses, et aller chercher des résultats que de préparer cet entretien fatidique pour certains en fin d'année.
Justement, à ce propos-là, Arthur, quels sont les objectifs clairement énoncés pour la saison qui vient ?
Alors, les objectifs de la saison, ils sont simples. Nous, si on prend un petit peu l'antériorité de la structure sur les 3 dernières années, on est remonté en N1 au début de la licence, donc au début des 3 ans.
Donc là, c'est votre 3e saison en N1 consécutive du coup.
C'est ça, malgré la petite erreur d'un an, on va dire, juste avant ça. Oui. Du coup, on a eu la première année où il a fallu se remettre au niveau, où il a fallu revenir chercher notre place. Et ça, on l'a très bien fait. L'an dernier, l'objectif était de stabiliser notre place. Et on l'a globalement assez bien fait aussi, puisqu'on termine la saison 20e. Alors, on l'a fait en 2 temps, puisque ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier début de saison complètement loupé et la fin excellemment réussie. Donc l'objectif, voilà, c'est de continuer cette progression. On a eu la première année où il fallait récupérer notre place, la deuxième année où il fallait conserver notre place, et maintenant le but de la troisième année, c'est d'aller chercher encore mieux. Donc l'objectif de cette saison, c'est d'aller chercher le top 15 national pour pouvoir être sportivement légitime. Donc, donc l'objectif, il est là. Top 15 au classement direct vélo qui rassemble l'ensemble des courses.
Et donc, c'est pas un top 15 spécifique sur les 5 manches de DN1 au final.
L'objectif sera aussi celui-ci. Top 15 sur les 2. Alors après, c'est vrai que la Coupe de France a pas perdu de sa valeur. Ça, c'est pas vrai. Quand j'entends certains collègues directeurs sportifs dire que la Coupe de France a perdu de sa valeur, c'est pas vrai. La Coupe de France a pas perdu en valeur, mais la Coupe de France a on va dire supprimé l'épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de toutes les équipes. Si on prend l'exemple de Sojasun l'an dernier, Sojasun qui fait je pense l'une des pires saisons de son histoire, avec le règlement, enfin l'ancien règlement des montées et descentes, se serait retrouvé en National 2. Est-ce que la place de Sojasun est en National 2? Je suis pas convaincu.
En parlant de la DN1, donc 5 manches, ça va démarrer donc le 19 février avec le Grand Prix du Pays d'Aix, donc une course assez vallonnée.
Oui, alors Aix-en-Provence a toujours été un petit peu dur, mais c'est la vraie donnée importante d'Aix-en-Provence, ça sera la météo. Ce sera pas forcément le profil, parce qu'on a déjà vu des années à Aix-en-Provence une arrivée de 30 ou de 40 mecs au sprint.
Oui.
Ou à l'inverse, des scénarios où il faisait soit forcément pas très beau ou où il y avait un fort vent, et là il y a un ou deux mecs qui jouent la gagne, quoi, c'est tout.
Après, donc il y a une course, on va les prendre d'un point de vue chronologique. Il y a la Vienne classique, alias donc la Louis-Lapierre classique. Ça, c'est une course qui vous tient forcément à cœur et qui lui tient forcément à cœur à Louis.
Oui, ça sera la Coupe de France importante de la saison, puisque on a nos deux gros partenaires de la structure qui sont à la Vienne, donc qui seront fatalement au départ. On aura en plus de ça, on va dire le stress, mais c'est pas réellement un stress, mais l'importance d'être chez nous. dans la Nouvelle-Aquitaine. Et après, oui, c'est vrai que c'est une course que Loulou affectionne, puisqu'il a été faire encore deux ou trois l'an dernier, trois il me semble. Et on est à la maison, donc c'est une course qui nous correspond, qui correspond à notre effectif. Et on espère aller briller là-bas.
Après, donc, les boucles de l'Artois, donc, dans le Nord-Pas-de-Calais, du 1er au 3 avril, bon, on n'espère pas de poisson d'avril. C'est un profil plat, du coup, ou c'est plus compliqué que ça?
L'Artois, venteux, non?
Oui, l'Artois, voilà, c'est ça. C'est un type de course qui sourit souvent aux gros rouleurs et aux sprinters. Alors, pour la petite anecdote, les dernières fois, enfin, il y a trois éditions de Coupe de France qui se sont faites sur les boucles de l'Artois, et ces trois éditions-là, on les a gagnées déjà.
Ah, d'accord. Bon, ben, il y a des bonnes vibrations, du coup, dans l'Artois.
Ouais, on a quelques attaches et on s'y plaît bien. On essaie de rentrer aussi bien.
C'est un parcours vallonné, Arthur?
L'Artois, non, pas forcément. Il y a des difficultés, bien sûr, mais globalement, on est plutôt sur des c'est mal plat comme pays.
Ouais,
c'est pas plat, c'est mal plat.
Bon, par contre, autant vous aimez l'Artois, autant le chrono 47, c'est plus compliqué, le 1er mai.
C'est plus compliqué, mais on est en progression d'année en année.
Oui.
Voilà, cette année, on va chercher des points en Coupe de France là-bas. On aurait pu faire un petit peu mieux sur une erreur tactique qui nous incombe à nous, au staff, cette fois-ci.
Oui, puis c'est vrai que c'était hyper dense, hein, entre la 11e place et la 20e place, il y a vraiment très peu d'écart au final.
Oui, c'est ça. Et puis nous, dans la voiture, on fait une erreur. Donc ça, voilà, il est aussi bien de le rappeler, parce que c'est pas tout le temps la faute des coureurs. Ce jour-là, on fait une erreur dans la voiture qui nous fait perdre, on va dire, 3 à 5 secondes grand max. Et ce jour-là, 3 à 5 secondes, ça faisait gagner 2 à 3 places. Donc c'était au final énorme. Et alors, on s'en veut toujours, mais maintenant c'est fait, c'est pas grave. Globalement, le chrono 47, même si on a recruté aussi pour, hein, l'an dernier, on a recruté Clément Mignon, qui est quand même un des triathlètes, dans le top mondial. Hein, Clément, il est impressionnant d'année en année, et c'est vrai que nous, il fait partie de notre effectif. Et sur le chrono par équipe, c'est la bonne locomotive, parce que Clément, il a cette capacité due au triathlon de pouvoir rouler très vite pendant très longtemps.
Oui.
Donc c'est la bonne pioche, Clément.
Et puis enfin, on termine la DN1 par les 3 jours de Cherbourg, donc du 2 au 4 septembre, en Normandie. Cherbourg, donc c'est la Normandie. Moi, je me rappelle que j'avais été une fois et j'ai failli m'envoler, comme je suis un poil plume. J'imagine que ça va être un parcours et pas mal de vent. Au niveau du profil, à quoi vous attendez?
Alors Cherbourg, on connaît bien, on y va tous les ans, et puis on a dans l'effectif Mathieu Demotis, qui est originaire de Cherbourg, donc on a aussi 2-3 attaches en Normandie.
Finalement, les Coupes de France sont plutôt bien placées entre la vie classique, l'Artois, vous avez des super résultats. Et Cherbourg, bon, même si le chrono 47, ça reste quand même dans la région, c'est un peu plus au sud. Et quoi que vous avez quand même recruté un coureur de Marmande. Et puis, finalement, il n'y a que le pays d'Aix où il n'y a pas trop d'attaques. Mais avec un coureur comme Jérémy Bilico qui a fait Paris-Nice, lui est plus habitué à ce genre de profil.
Non, alors c'est vrai que quand on analyse l'ensemble de la Coupe de France, c'est si on les prend une par une, elles nous correspondent quasiment toutes. Aix-en-Provence, c'est peut-être celle qui nous correspond le moins, avec le chrono 47. Et après, c'est que des courses où on a l'habitude d'aller et on a l'habitude de performer aussi. On va pas y aller en pleine confiance, puisque il faut rester humble. Mais c'est vrai qu'on y va quand même en ayant 2-3 connaissances de la course. Et pour répondre à la question sur les 3 jours de Cherbourg, c'est une course qui est parfois très dure, avec un profil assez accidenté, sur des petites routes, souvent sur le bord de la mer. Donc avec la donnée vent qui est aussi très importante. Mais l'an dernier, ça s'est plutôt très bien passé, puisqu'avec Mathieu Demotis, on a été chercher un top. Il doit faire 8 ou 9 du général. Et Rudy Fievez fait meilleur grimpeur tous les jours. Donc c'est vrai que c'est une course qu'on affectionne beaucoup. Et quand on regarde l'ensemble de la Coupe de France, on va dire 80% des courses de la Coupe de France N1 sont des courses qu'on affectionne. Donc on est plutôt content de ce tirage cette année.
D'ailleurs, sur les deux, donc sur les 3 jours de Cherbourg et sur les boucles de l'Artois, est-ce qu'il y a un chrono individuel ou c'est vraiment que des courses en ligne qui vont avoir lieu?
Alors sur les boucles de l'Artois, c'est traditionnel, il y aura un chrono individuel. Ça, c'est souvent le chrono individuel qui fait le classement général au bout de l'Artois.
Oui, finalement, un peu comme le Critérium International qui, à l'époque, c'était dans le nord de la France.
Oui, globalement, ça fonctionne à peu près pareil. Ouais. Après, après, sur les trois jours de Cherbourg, habituellement, il n'y a pas de contre-la-montre. Alors après, je pense pas qu'il y en ait cette année non plus, j'espère pas, parce que alors, ça pourrait, je pense, dénaturer la course, dénaturer les trois jours de Cherbourg. C'est pas forcément l'objectif. Mais non, on est assez satisfait de ce programme de Coupe de France. Maintenant, il va falloir, au-delà de la satisfaction, être performant.
Et donc, avant le Grand Prix du Pays d'Aix, donc, il y a des courses hyper importantes et ça va démarrer dès le début février avec les Sorts Basques. Toujours un rendez-vous hyper important. Ça se déroule sur deux week-ends, il me semble.
Oui, alors les Sorts Basques, oui, c'est pas réellement une course par étapes, ce qu'on appelle des courses en challenge. Ça correspond un petit peu au challenge de Majorque pour les professionnels, où en fait on peut venir avec les 17 coureurs, on en fait courir 10 par jour et tous les jours on peut changer. C'est vraiment les courses de reprise, les plages vendéennes sont aussi dans ce format-là. Après, il y a quand même un classement général sur l'ensemble des manches, mais globalement, le but du jeu, c'est de faire courir un maximum de personnes, venir essayer de mettre en place les premières tactiques, les premiers assemblages, on va dire, pour essayer de venir étoffer les pistes de travail qu'on aura trouvées ou qu'on aura expérimentées en Espagne, pour ensuite partir sur le reste de la saison complètement prêt.
Oui, affiner les connexions entre guillemets.
Globalement, c'est ça. Ouais. Globalement, ouais. C'est ça. Venir faire les premiers tours de roue en course, parce que c'est pareil. Hein, les coureurs, ça va faire bientôt 4 mois, 5 mois qui, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas fait de compétition. Il va falloir récupérer les automatismes. Il va falloir relancer tout ça, accepter la contrainte de contact, la contrainte de vitesse, de pluie, de froid, de vent, de tout ça. C'est des choses qui depuis Paris-Tours, ça fait un moment déjà, donc il va falloir que eux aussi leur machine se relance petit à petit, en espérant qu'elle se relance un peu plus vite que l'an dernier quand même, et que nous aussi on arrive à, si jamais ça se relance pas aussi vite que prévu, qu'on arrive à trouver les solutions plus tôt. Mais oui, le début de saison reste important et on va dire que avec la Coupe de France en troisième week-end, ça devient très 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 important comme début de saison. Là où les années précédentes, on arrivait en début de saison en disant bon, voilà, le mois de février, on a encore un petit mois pour étoffer tout ça. Là, on va avoir deux week-ends.
Oui, là, vous allez directement rentrer dans le mastic.
Ça va falloir être dans le vif du sujet assez rapidement.
Oui. Vous écoutez Attitude sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, mais aussi sur www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h-20h30. Nous retrouvons Christian et Arthur Beauchaud.
Oui, d'ailleurs, Arthur, en parlant de planification de course, en tout cas en World Tour, on parle souvent de plusieurs fronts, parce que les courses ont des caractéristiques différentes en termes de profil. Est-ce que par exemple, est-ce que c'est la même chose chez vous, dans le sens où par exemple un Louis Lapierre va finalement rarement croiser un Rudy Fievez dans la saison?
Oui, globalement, ça fonctionne à peu près pareil que chez les pros. Alors après, les pros, ils ont l'avantage d'être plus de 25 dans la structure, donc c'est plus simple à gérer. Nous, on est aussi parmi les plus gros effectifs de N1, puisqu'on est 17, là où la plupart des équipes évoluent à 12. Donc nous, on essaie de construire notre calendrier, donc c'est pas toujours simple aussi, hein, avec une course plutôt typée rouleur-sprinter, et en confrontation, le même jour, une course plutôt typée puncher-grimpeur, ce qui permet d'avoir deux groupes.
Oui. De laisser personne sur le bord du carreau sur un week-end.
Aussi, c'est aussi le but du jeu, hein, de faire courir les mecs, d'aller un petit peu partout, de leur mettre des jours de course. Pour les jeunes, c'est hyper formateur parce qu'ils vont avoir plein de choses. Alors après, évidemment que ce sont des groupes qui sont en N1, du moins, parce que chez les pros, c'est différent, mais qui sont interchangeables. Il est évident que, par exemple, si on prend Antonin Souchon, qui est plutôt typé dans le groupe rouleur-sprinter, l'an dernier, s'est retrouvé au départ de la ronde de l'Isard parce que c'est les coureurs qui aspirent à passer pro, les coureurs de National 1. Et que s'ils se cantonnent des National 1 à s'enfermer dans un type de coureur, dans un type de course, dans un type de fonctionnement, mais ils passeront jamais pro puisqu'ils sont pas performants partout et que s'ils ont pas l'habitude d'aller à la montagne, même en étant sprinter, ça peut pas fonctionner.
Ouais, au final, c'est un peu la mentalité de Madiot, dans le sens de Marc Madiot, dans le sens où lui, il a engagé ses coureurs à faire du cyclocross l'hiver. C'est un peu ça aussi, finalement. C'est un peu des coureurs de nouvelles choses et surtout de ne pas rester dans sa zone de confort.
Oui. Alors, c'est vrai que la pluridisciplinarité est quelque chose d'important. Nous, là, on le voit cet hiver, on a des coureurs qui vont aussi bien faire du VTT, qui vont faire du cyclocross, qui vont faire de la piste. Le but du jeu, c'est aussi pas rester inactif tout l'hiver, de faire quelque chose qui change un peu de la route, parce que le souci entre guillemets de la route, c'est qu'il faut il y a beaucoup de bornes, beaucoup d'heures d'entraînement, et que ça peut à la longue devenir un petit peu monotone. Donc venir changer ça avec des séances de musculation, des séances de marche. Il y en a qui ont été à la montagne faire de la marche l'hiver, il y en a qui ont fait du futsal, il y en a qui ont fait du badminton. Enfin, l'hiver, moi en tant qu'entraîneur, je sais que sur les athlètes, je suis assez libres là-dessus. En début d'hiver, ils me disent bah moi j'aime bien faire du badminton, j'aime bien faire de la marche, j'aime bien faire ça, et puis après moi je m'arrange à faire le plan d'entraînement pour que ça vienne aussi un petit peu casser la monotonie de la séance foncier 5 heures, et puis le lendemain qu'on a fait 5 heures, faut aller faire 4 heures, et puis globalement voilà, faut aussi que l'esprit se sente bien, et des fois c'est un peu rébarbatif quand même.
D'ailleurs, en parlant de d'autres disciplines, est-ce que vous avez des coureurs qui font des trails ou des choses comme ça, parce que finalement les deux efforts sont pas incompatibles, bon, mis à part bien sûr Clément Mignon qui lui est habitué à déjà à courir.
Ouais, alors Clément Mignon, ça reste
notre. Il n'a pas converti deux trois de ses coéquipiers à la natation et la course à pied.
Moi il m'impressionne en charge de travail. L'autre jour, on a discuté un petit peu et je regardais ses données. Il a été faire 130 km de vélo le matin. Quand il est rentré, il a mangé, il a enchaîné avec 5 km de natation, et puis en fin d'après-midi, il a été faire 21 km de course, et puis il nous dit que ça c'était une journée un petit peu relâche. Bon, donc j'ai dit ok. donc c'est vrai que Clément, il a cette capacité d'adaptation qui est énorme, et je pense que c'est plus simple d'être un grand champion dans un sport quand on est un grand athlète. Dans le sens où si on a l'habitude de faire beaucoup de sport et qu'on arrive à être athlétique, du coup, c'est plus facile d'être un champion dans une spécialité. Je sais pas si je me fais comprendre, mais moi c'est comme ça que je vois l'entraînement, et c'est comme ça que j'essaye de l'éduquer à soit les jeunes du centre de formation, soit les grands du top 16. C'est que le but du jeu avant d'en faire des cyclistes, c'est d'en faire des athlètes. Donc, faut qu'il soit endurant, faut qu'il soit souple, faut qu'il soit gainé, même si ça veut pas dire grand chose. Faut qu'il soit à peu près bon partout, faut qu'il ait un bon niveau moyen. Et puis après, on vient spécialiser.
Oui, ça rejoint un peu finalement ma question de tout à l'heure. Au final, est-ce qu'on spécialise rapidement, ou est-ce que finalement on reste est-ce qu'on bosse un peu tôt au final? Ça, finalement, tu réponds encore un peu à cette question.
oui. Alors une fois qu'on est cycliste, il faut aussi surtout en N1 accentuer les points forts. C'est vrai, mais il faut garder une base et un socle athlétique qui est conséquent. Si je dois donner un exemple, Arnaud Démare, dans les catégories jeunes, il a été faire top 20 à la Classique des Alpes.
Donc,
beaucoup auraient pu dire, ah là là, Arnaud Démare, c'est un futur grimpeur. Mais non, Arnaud Démare, c'est un futur sprinter. Mais ça n'empêche que quand il était jeune, il a été faire top 20 à la Classique des Alpes. Donc ça prouve bien que la spécialisation, elle doit être plus tardive que prévu.
Bah, en parlant de ça, il y a des coureurs qui se révèlent sur le tard. Hein. Par exemple, un Chavanel qu'on pensait qu'il pouvait potentiellement gagner un Tour de France, finalement sur le tard, il s'est révélé sur le Tour des Flandres, il fait deuxième d'un Tour des Flandres, il va sur Paris-Roubaix aussi. Bon, après son transfert dans une équipe belge, je pense qu'il a pas mal aidé, mais c'est vrai qu'au final certains coureurs finalement se révèlent sur des courses où on les attendait pas, et puis ils aiment ça et puis ils y retournent.
Oui, non, mais alors après c'est là, on rentre dans les aspects physio, mais c'est vrai que nous, chez les cyclistes, on a très vite des tendances qui apparaissent quand on est jeune, c'est-à-dire qu'on a une facilité d'explosivité qui peut conduire vers le rôle de puncher, des facilités à rouler vite longtemps. Donc, mais après, dans une carrière entière, c'est des choses qui évoluent. On a voilà, on a des coureurs qui sont plutôt typés grimpeurs, qui vont finir voilà un peu puncher. Enfin bref, on a des choses qui évoluent avec l'âge, pour la simple bonne raison que le corps vieillit, donc il fonctionne plus forcément pareil. Il accepte pas forcément l'entraînement de la même façon et on travaille plus forcément de la même façon non plus à l'entraînement. Donc c'est vrai qu'on a des capacités qui changent beaucoup, même si on sort jamais réellement de notre spécialité.
Oui, par contre, c'est quand même moins contingenté, entre guillemets, que de l'athlétisme. Par exemple, on fera jamais d'un coureur de 100 mètres à un coureur de 10 000 ou un coureur de marathon. Ouais.
Non, c'est sûr. Alors après, nous, c'est pareil. On pourra pas passer de top grimpeur mondial à top sprinter mondial non plus. Hein.
Il y a qu'un coureur dans le monde qui arrive.
C'est Jalabert.
Non, c'est Van Aert.
Oui, Wout Van Aert. Exact. Oui.
Capable de gagner un Mont Ventoux et capable de gagner un sprint massif et de gagner aussi un chrono.
Oui. Alors après, ça reste des
Ça reste une exception.
Oui, c'est ça. Mais globalement, changer de classification du tout au tout, ça me semble compliqué. Alors après, c'est vrai, de passer de puncher à voilà, il y a rouleur grimpeur, il y a des choses qui physiologiquement sont proches. Donc pourquoi pas. Mais après, on pourra pas être. Quintana deviendra jamais Mark Cavendish et Cavendish deviendra jamais Quintana, par exemple.
Oui, complètement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut alors c'est la question de Didier Juilpic, hein, je suis désolé.
Vas-y, il y a pas de souci.
Qu'est-ce que du coup on peut espérer sur ce stage en Espagne et surtout sur les premières courses, je pense notamment à l'Essor Basque, forcément que ça parte mieux qu'en 2021, mais est-ce qu'il y a déjà des attitudes ou des résultats qui sont espérés?
Non, c'est. Je vais répondre en deux temps. Ce qu'on peut espérer du stage en Espagne, et j'en espère pas forcément grand chose sur le point de vue physiologique et performance. Ce que j'espère du stage en Espagne, c'est que les mecs ils se retrouvent entre eux, qu'ils créent vraiment une sauce, qu'ils arrivent à faire monter la mayonnaise entre eux, que j'entende plus de rire que d'autres choses, et qu'au final le socle du groupe et on va dire la chape de la maison, hein, parce que ça reste la chape si on fait un comparatif au monde du BTP, mais j'espère que le groupe vivra bien et que ça pourra permettre de passer les mois de galère, si jamais on a des mois de galère, parce que le jour où on a un mois de galère, la seule chose qui permet de d'exister ou de continuer à vivre, c'est l'ambiance et
oui, c'est que le vestiaire vive bien.
Exactement. Donc déjà, j'espère qu'on va pouvoir avoir cet état d'esprit sorti du stage en Espagne. Mais après, entre nous, quand je vois l'état d'esprit qu'il y a eu sur le dernier stage et sur les derniers rassemblements, c'est certainement un des points qui m'inquiète le moins. Voilà, l'ambiance dans le groupe. Après, si on se projette légèrement plus loin dans la saison, qu'est-ce qu'on peut espérer de l'Essor Basque? Ce qu'on espère de l'Essor Basque, c'est pas vivre le même Essor Basque que l'an dernier, avec les nombreuses chutes, les nombreuses galères, et que le groupe continue à évoluer dans le bon sens.
Parfait, Arthur. Merci. Donc, on a bien compris que l'équipe Océane Top 16 aujourd'hui est une équipe qui est pleine de promesses, donc avec un effectif jeune, et avec un papa de route qui est Ludovic Nadon, qui a 32 ans, mais tous les autres sont vraiment très, très jeunes. C'est aussi une équipe qui est capable de se présenter sur tous les fronts, donc d'être présent un petit peu partout. On va suivre avec attention, nous, chez Attitude et chez Culture Sport, l'évolution de votre saison. Encore une fois, Arthur, merci beaucoup d'avoir accepté notre émission. Merci d'avoir accepté de nous recevoir au pied levé. On te souhaite pour toi le meilleur et pour ton équipe aussi. Donc, la santé tout d'abord, et on suivra avec attention vos pérégrinations dans le cadre de la saison à venir. Encore une fois, merci beaucoup, Arthur.
Merci à vous de m'accueillir. C'est toujours un plaisir. Et puis, meilleurs vœux à vous tous et à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup, Arthur. Merci. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir.